France Inter.
Quand je commence à jouer, c'est pour sortir de moi-même, donc pour faire des choses extravagantes, pour vraiment partir en folie, quoi, lâcher quelque chose, quoi. T'es enfant assez timide, tout ça, donc tout d'un coup, j'explose un peu le cadre, c'est pour exploser le cadre. Et après, je rencontre des metteurs en scène qui m'invitent à aller au vrai.
Acteur, ça part d'une pathologie, hein. Et quand j'ai réalisé que j'étais la source de mes problèmes et aussi la source de mes solutions, j'ai compris une chose très importante. Et du coup, j'ai commencé à l'appliquer à tous les domaines de ma vie parce que j'ai accompli une espèce de ce que j'appelais une révolution, c'est-à-dire un tour sur moi-même.
Elle fait partie de ces actrices qu'on regarde grandir avec plaisir et avec quelque chose qui ressemble à de l'affection, de la tendresse. Son côté bohème, sa gouaille, sa voix parlée encore juvénile, sa voix chantée aussi, qui résonne souvent sur scène, la rendent unique et désirée au théâtre comme au cinéma. Quelques années à la Comédie-Française, puis diverses rencontres théâtrales avec Martial Difonzobo, Yves Bonnen, Benjamin Lazare. Et dans deux jours au Châtelet à Paris, elle est à l'affiche de Hamlet Fantôme, d'après Shakespeare, sous la direction du metteur en scène russe Kirill Serebrennikov et du chef d'orchestre Pierre Bleuze, qui dirige l'ensemble intercontemporain. Bonjour Judith Chemla.
Bonjour Vincent.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
J'ajoute que vous avez écrit un livre sorti l'année dernière. Notre silence nous a laissés seuls. Témoignage sur la violence subie par deux de vos compagnons qui dit entre autres « La justice ne doit pas punir celles et ceux qui osent dire la vérité. Elle doit les protéger. Remettons le monde à l'endroit. » Vous avez invité, Judith, une comédienne et une amie, Céline Salette, qu'on attend d'un instant à l'autre.
Oui,
hein, elle va arriver.
Elle est sur le point de débarquer.
Elle court, on l'a vu dans la Polonide, dans Les Revenants, dans Les Algues Vertes. Elle vient aussi du théâtre qu'elle pratique toujours. Laurent Lafargue l'a souvent dirigée. Elle est aussi réalisatrice. Une fiction l'année dernière, Nikki, le portrait de l'artiste et féministe Nikki de Saint-Phal. Et puis, elle a un projet de documentaire dont elle nous parlera.
France Inter, le grand atelier.
Judith Chemla est donc à deux jours de monter sur scène avec ses camarades dans une version très particulière d'Hamlet. C'est une adaptation de la pièce de Shakespeare, de ce garçon qui veut venger son père.
Oui.
Son oncle a tué son père et il va épouser sa mère. C'est un drame. Et le russe dissident et opposant à Poutine, Kirill Serebrennikov, qui est un artiste extraordinaire.
Extraordinaire.
Qui fait du cinéma comme du théâtre, est en train de faire en sorte que tout soit prêt pour dans deux jours. J'ai assisté à une répétition il y a deux, trois jours. C'était formidable parce que c'était un chantier total. Rien n'était encore définitivement calé. C'était un état de recherche. Et tous, vous étiez cool.
Ouais.
Vous étiez en confiance. Lui-même avait son micro. Il disait Judith pour Judith. Judith fait ci, Judith fait ça. Il parle dans plusieurs langues, d'ailleurs.
Oui.
Impression que tout le monde comprend Serebrennikov. Et lui a dans la tête un projet très précis. Et vous lui faites confiance. C'est vraiment une histoire de confiance, ce à quoi j'ai assisté.
Ah oui. Bah écoutez, c'est vrai que c'est un artiste. De par ses films, moi j'ai pas vu encore de spectacle, donc je ne sais même pas si je verrai ce que ça donne, je ressentirai un peu, mais...
J'avais vu Le Moine Noir à Avignon, extraordinaire.
Ah bah tant mieux. Mais moi j'ai vu ses films, et pour moi c'est un des plus grands artistes qu'on ait aujourd'hui.
La femme de Tchaïkovski.
Oui, La femme de Tchaïkovski, La fièvre de Petrov, Limonov, c'est vraiment des films d'une liberté, d'une maîtrise artistique.
D'une inventivité
où vraiment l'espace psychique et le réel communique et se brouille. Enfin, sa liberté, pour moi, elle rejoint Fellini ou Bergman, les plus grands réalisateurs. Sa liberté artistique, sa créativité, vraiment, je ne peux pas rêver mieux. C'est un metteur en scène qui allie tous les arts visuels, l'opéra, la danse. Je ne peux pas rêver mieux, vous voyez, j'ai l'impression d'un hasard merveilleux, quoi.
On apprend encore avec des artistes comme ça, j'imagine, malgré le métier qu'on a déjà.
Ouais, complètement. Et puis, on fait confiance à sa vision, même s'il y a des trucs qu'on ne comprend pas trop ce que ça va raconter. Ou on fait confiance à sa puissance poétique, à la puissance de l'image. Et puis, son écriture, qui, en effet, ça fait exploser la pièce de Shakespeare. Et il écrit totalement librement, avec des sujets aussi qui touchent toute l'histoire moderne, même. Et ça résonne très, très fort avec la tragédie d'Hamlet et avec ce moment de bascule de l'histoire qu'on est quand même en train de vivre, quoi. Voilà, Hamlet, il se pose la question aussi de qu'est-ce que c'est que la justice, comment être juste. Et aujourd'hui, on assiste à des gens qui font la justice, soi-disant, par la terreur, par le meurtre. Et comment nous, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, on se dit mais comment on se positionne dans ce monde? Qu'est-ce que c'est que agir, être, ne pas être? Pour lui, c'est quoi? C'est agir, c'est tuer, c'est venger son père par le meurtre. Et il se demande ce que c'est, quoi. Et ou alors supporter, ou alors ne rien dire, ou s'enfermer dans le rêve, dans l'inaction. Voilà, toutes ces questions, c'est maintenant qu'on se les pose, nous tous.
Alors vous êtes heureux, j'imagine, Judith Chemla, parce que vous aimez chanter aussi autant que jouer.
Ouais.
Je dirais 50-50.
Ouais.
Et il vous donne, Serebrennikov, la possibilité de jouer, parce qu'il y a une partition contemporaine, et c'est l'ensemble intercontemporain avec au moins 30 musiciens dans la fosse qui vous accompagnent. Donc vous avez deux partitions, votre texte et le chant. Et le chant, vous avez d'une certaine manière l'habitude de le pratiquer quand vous jouez. Je me souviens de vous, il y a 15 ans, je crois, au Bouffe du Nord à Paris, dans De beaux lendemains d'Emmanuel Mérieux. Enfin, mise en scène par Emmanuel Mérieux, et vous étiez en fauteuil roulant, et d'un seul coup, vous chantiez Radiohead.
Oui.
Exit Music, c'était un moment magique. Et je me suis dit, tiens, on pourrait commencer le grand atelier de Judith Chemla par du Radiohead. Je vais vous laisser deviner quelle chanson c'est. L'intro dure 30 secondes, je suis sûr que vous allez trouver.
Oh là là, mais vous savez que je suis nulle, moi.
C'est Everything in its Right Place, une chanson du disque Kid A.
Ah ouais.
J'ai une nouvelle, chers auditeurs, chères auditrices, Céline Salette est arrivée.
Oui, bonsoir.
Bravo. Céline Salette, il paraît que vous êtes amie de conservatoire de Judith Chemelin.
Mais oui, quelle chance j'ai eue. Je l'ai vue jouer au tout début de sa carrière d'actrice.
Et pourquoi
elle
c'est une
déjà...
chance
bah parce qu'elle était déjà si exceptionnelle.
Oh,
si.
Allez, ça commence.
Allez.
Non, c'est pas vrai.
C'est vrai.
On va pas passer une heure à se cirer là. C'est pas possible.
Non, mais racontez-nous juste comment elle était, la Judith étudiante.
Elle a pas tellement changé, je crois. Aussi vive qu'elle est maintenant, aussi brillante, et elle était déjà un immense talent, vraiment.
Judith, comment était Céline Salette ?
Allez, c'est parti. J'étais vraiment fascinée par... Bon, Céline, déjà, c'est une grande beauté, bon, on n'y peut rien, c'est une grande actrice. Une femme, déjà, très libre. Je l'avais vue aussi au cinéma, tu jouais avec Ande, là, dans Meurtrière. Enfin, je me souviens, il y a une scène qui m'a marquée, je ne sais pas pourquoi, de crier, tu appelais un mec, tu criais avec toute ta voix, et je me disais, mais... Sa façon de crier, il y a une telle liberté, il y a une telle singularité, c'est tellement elle, c'est tellement, je sais pas, brut et gracieux et je sais pas, une force intérieure, une violence, une, je sais pas, une liberté qui était admirable, que j'admirais vraiment. Et puis on parlait, tu vois, on avait déjà des conversations, je me souviens plus exactement, mais sur la vie, les relations, et je sentais ta... Une femme très libre, et pourtant, dans nos vies de femmes, on s'est engouffré dans des impasses, on s'est...
Complètement.
Voilà, ouais. Mais ça répond à un modèle qu'on a vu, de les grandes amoureuses, là, qui s'amputent elles-mêmes par amour, enfin, ce qu'elles croient être de l'amour. Et pourtant, cette grande liberté qu'on avait, on l'a nous-mêmes, des fois, asservie.
Complètement.
Vous êtes plus libres, toutes les deux, Judith Chemelin et Céline Salette, quand vous travaillez, que quand vous aimez.
En effet.
On vient de cet atavisme un peu féminin, oui, de la femme qui aime trop, qui donne
du
tout.
Du sacrifice total, de la foi totale que l'amour est tout puissant.
Et aussi, t'as tellement raison quand tu parles d'amputation de soi-même, parce qu'en fait, cette croyance que l'amour remplit une chose qu'on n'aurait pas soi-même à l'intérieur... C'est une fausseté. En fait, d'abord, comme femme, moi, j'ai compris qu'à un moment, il fallait que je me trouve moi, que je sois pleine moi-même, en fait, que j'ai pas besoin que quelqu'un me rende heureuse. Judith a participé à changer ma vie. C'est pas volontaire, on n'est pas collé dans la vie. On se retrouve des fois à des carrefours, et franchement, c'est grand comme relation, en fait.
C'est beau, ce que vous dites.
C'est très beau, mais c'est très beau. En fait, c'est des liens, si vous voulez. Et moi, je pense qu'on l'a avec Céline, mais on l'a avec plein d'autres. Et on l'a aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. On l'a aussi avec des gens qu'on entend une fois à la radio. On a aussi avec des gens qu'on croise, qu'on voit grandir, qu'on voit évoluer, qu'on voit s'accomplir. Vraiment, le fait de voir Céline s'accomplir, de l'avoir réalisée, j'étais près d'elle quelques temps parce que je participe en tant qu'actrice à son film Nikki. J'ai vu Céline devenir cette femme qui crée, qui prend possession d'elle-même et qui laisse, et surtout à l'humilité extraordinaire, de laisser le récit advenir, celui de Nikki de Saint-Phal. Comme tu en parles, Céline, c'est magnifique. Cette femme qui, après avoir vécu l'inceste et qui est guettée par la folie et la destruction d'elle-même.
Elle est incestée par son père quand elle a 10 ans.
Ouais.
Et elle ne le dira qu'une fois sexagénaire dans un livre destiné à sa fille, hein, Céline Salette.
Oui, qui s'appelle Mon secret.
Ouais.
Et le film raconte les conséquences de cet inceste sur la vie amoureuse, psychologique et artistique de cette femme, Nikki de Saint-Phal.
Tout à fait. Et Céline, quand tu en parles, tu dis qu'elle s'est donnée vie à elle-même. Tu disais à Cannes, là, sur la scène, la première fois que tu présentes le film, qu'à un moment, il faut se confronter, mais tu l'as mieux dit, à nos dragons. À nos dragons. Bon, ils sont à l'intérieur de nous, mais ils sont dans la société. Et c'est en nous-mêmes qu'on les combat et qu'on a l'art. On a l'art pour le manifester. Manifester ces combats intérieurs qui, après, moi, je trouve qu'avec l'art, c'est magnifique, ils deviennent sociétaux. Et on montre comment on peut les combattre dans la société et dans le réel.
Quels sont vos dragons à l'intérieur de vous, Céline Salette ?
Je ne me sentais pas capable d'être moi. Je me rappelle la première fois que le père de ma fille est parti, j'avais l'impression d'être dans un bain d'acide, de tellement je ne savais pas comment faire pour vivre toute seule, par moi-même, avec mes propres envies. Jusque-là, j'avais vécu, et on m'avait dit où me mettre, presque. Et donc, j'avais pas confiance dans le fait que je pouvais moi-même profondément me connecter à mes besoins et à où est-ce que c'était que j'avais envie de me mettre. Vraiment, dans la vie, dans cette société, dans ma maison, dans mes rapports. Je savais pas fixer de limites, je croyais que j'étais illimitée. Ça, c'était une chose que je disais. Comme actrice, hein, je suis illimitée, je peux tout jouer. Je pensais que je me déterminais moi-même, mais j'étais dans le déni, je me leurrais, je me trompais moi-même. Parce qu'en fait, j'étais pas capable d'être seule. Et donc, quand j'ai réalisé que j'étais pas capable d'être seule, que j'étais dépendante affective, donc après, j'ai mis des mots un peu...
Et vous vous êtes libérée ?
Enfin, les liens étaient coupés, donc j'ai pas eu besoin de me libérer, mais en fait, seule, j'ai dû me construire.
C'est
donc
ça.
Enlever les fondations pourries, celles qui étaient des fausses croyances, de je peux pas, je suis pas capable, j'ai pas, je sais pas. Et aussi, je voulais changer les autres, hein, je voulais changer le père de ma fille. Aux Alcooliques Anonymes, il y a un truc, parce que je l'accompagnais, qui dit... Donne-moi la force de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer et de savoir faire la différence entre les deux. Et en fait, cette phrase, bah, moi je ne l'avais jamais entendue, mais elle m'a aussi profondément changée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il faut faire avec. Il y a des choses qu'on peut changer, mais surtout pas les autres. Les autres, on ne peut pas les changer. On ne peut changer que soi. Et son propre chemin, ses propres gestes.
Mais c'est exactement ce que dit Judith Chemelin dans son livre.
Exactement.
Oui, mais moi je pense que, voilà, quand on se rend compte qu'en fait... toi et moi, on est liés, que, en fait, tu vois, quand moi je témoigne, les centaines, les milliers de témoignages que je reçois, c'est, voilà, l'histoire, elle n'est pas, c'est pas une chose personnelle, c'est une chose, quand on prend conscience, c'est la société entière qui doit et qui se métamorphose trop lentement des fois, et on voit les résistances à ce que, en effet, je peux vivre par moi-même, je ne suis pas qu'une petite chose fragile qu'on peut, voilà, tout ça, on en a hérité. Ce rapetissement de soi, de cette peur, de cette vision d'une femme dépendante. On en a hérité, ça fait des... Voilà.
Est-ce que je peux vous faire écouter un témoignage qu'à 55 ans, c'est l'avocate Gisèle Halimi,
ah oui,
qui a beaucoup combattu pour que les femmes soient libres. Ben vous allez me dire ce que vous pensez de cette parole.
On dit, madame, vous êtes le diable.
Nous, on a tendance à le dire. On dit aussi que je suis sale par qu'un scandale arrive. Et on oublie de dire qu'il est certain scandale qu'il est plus scandaleux de laisser s'endormir dans le silence que de ne pas le dénoncer, je veux dire, par tous les moyens.
Vous êtes mariée.
Je suis mariée, j'ai 3 enfants.
Vous auriez pu en avoir d'autres.
Si j'avais voulu, oui.
Oui.
Je n'en ai voulu que 3 et j'ai avorté 3 fois.
Alors vous dites ça tout de même, est-ce que vous dites ça par défi ou est-ce que vous dites ça comme une information que tout le monde doit savoir?
Je dis ça parce que je dis qu'il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie, c'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Et nous le disons. Le vrai scandale, c'est de ne plus dénoncer le scandale. Et ça, c'est un scandale. Il n'est plus possible que les femmes, aujourd'hui, soient réduites à ce rôle, au rôle de réceptacle.
Ah, comment réagissez-vous, Judith Chemelin ? Vous voyez avec Céline acquiescer.
C'est tellement le sujet, enfin... Je veux dire,
j'ai l'impression que vous pourriez prononcer ces mots encore aujourd'hui.
Évidemment qu'on peut les prononcer. Bon,
ça veut dire que la société n'avance pas ?
Elle avance et puis elle recule. Et puis c'est une lutte constante. On voit bien que là, l'avortement est, ça y est, encore criminalisé aux États-Unis. Ici, bon, on va voir si on change de régime. Tout est mis en place par aussi beaucoup de grands médias pour qu'on change de régime et que nos droits les plus fondamentaux puissent être réinterrogés. Voilà. Évidemment, mais surtout quand elle commence à dire qu'il est, il est plus scandaleux de dire ce qui se passe que d'accepter des scandales qui se passent dans l'intimité ou dans la société, mais qu'on étouffe. C'est pour ça que je fais venir Céline ici, parce que Céline a la force, aujourd'hui, avec l'artiste qu'elle est, elle a une force que moi, par exemple, je fais ce que je peux là où je peux, mais Céline, elle a une force que moi, je n'ai... On fait tous comme là où on est, mais là, Céline, tu prends... avec ce documentaire que tu es en train de faire.
On va en parler dans un instant, parce qu'il va falloir qu'on écoute Pomme chanter.
Ah oui.
Mais je voudrais quand même qu'on écoute déjà le son, un extrait du film Nikki. On parlait de Nikki de Saint-Phalle, et c'est le moment où une amie peintre à elle la console, prend soin d'elle. Mmh. C'est Judith Chemla.
Ça va ? C'est quoi cet état-là ? Allez, viens, viens. T'as les yeux qui te sortent de la tête, là, ma pauvre petite mère. Dis-moi ce qui se passe. Et qui ? Essaye. Dis-le. Viens là. Viens. Regarde-moi, viens, approche-toi. Regarde-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis une sorcière. Il y a du retard. Ça stagne. Tu peux, t'arrives pas à faire les choses que tu veux faire. Hein ? Et il faut que tu... Faut que le sang monte à la tête, là. Tu vois ? Faut que tu regardes les choses autrement.
Un extrait du film de Céline Sallette, le premier film de Céline Sallette. Il y en aura d'autres, et puis vous allez nous raconter tout à l'heure la suite de vos projets. Vous aviez envie de nous faire connaître quoi de Nikki de Saint-Phalle, Céline Sallette, avec ce film Nikki ?
C'est drôle, il n'y a jamais eu de film sur Nikki parce que je pense que c'était trop intime pour la famille. Et aussi, je pense, trop dangereux, cet inceste qui a marqué la vie de Nikki, qu'elle a révélé quand elle avait à la fin de sa vie, alors qu'elle fait un acte en effet, en écrivant cette lettre publiquement à sa fille dans ce livre, Mon secret, qu'elle écrit à la main, qu'elle dessine, qui est de nouveau cette œuvre autobiographique, une œuvre ultra puissante de révélation. Et donc, je pense qu'il y avait cette crainte, voilà, en fait, que l'inceste, dans le parcours artistique de Nikki, ça a jeté l'opprobre. Quand elle a révélé l'inceste, ça a jeté l'opprobre sur son œuvre, ça a jeté une ombre noire. Parce que c'était une époque où c'était encore un peu dégueulasse, quoi. On ne savait pas tellement ce que c'était et ça restait. Justement, je reprends les mots qui m'ont été dits du domaine de l'intime. Et en fait, j'ai réalisé il y a très peu de temps que l'inceste, c'est le contraire de l'intimité. Donc dire de Nikki de Saint-Phalle qu'on la ramène à son intimité d'artiste quand on parle de l'inceste, de femme quand on parle de l'inceste, c'est vraiment une erreur énorme en fait. L'inceste, c'est pas l'intimité. L'intimité, c'est quand on est avec soi. L'inceste, c'est le contraire, c'est une guerre. C'est un acte brutal, c'est une violence. C'est vraiment le contraire de ce qu'on peut appeler l'intimité. Et en ce sens, quand Nikki le révèle, elle fait un acte qui est profondément politique. Elle dit, au contraire, que ça n'est pas son intimité, que ça l'a reliée pour toujours avec tous les opprimés de la planète. C'est une connaissance qu'elle a fait dans sa chair de la douleur d'être brutalisée et violée. Je voulais, moi, quand j'ai fait Nikki, raconter ça, raconter que, en fait, elle a eu un parcours héroïque à une époque où il n'y avait pas de regard sur les violences sexuelles.
Les années 50, 60.
Ouais, pas de... Enfin, je veux dire, son psychiatre brûle la lettre d'aveu que son père lui avait fait. Enfin, elle se relève, elle se donne naissance... après avoir traversé cet enfer, on a besoin d'entendre son histoire aujourd'hui.
C'est ça que tu racontes. Moi, c'est ça qui me voilà. Pour moi, c'est le cœur, c'est se donner naissance. Mm. Elle est l'artiste qu'elle est parce que elle arrive à créer avec et à révéler quelque part, à remettre la chose à l'endroit, à crever la peinture, à crever le réel et à le recréer, quoi, à le rebâtir, à le recolorer et à révéler la violence.
Pour moi, le héros, c'est ça, le parcours du héros. Hein, il traverse l'enfer, il y trouve la lumière et il la rapporte au monde. Quand elle dit dans une interview, vers la fin de sa vie, que tous les témoignages qu'elle a reçus après Mon secret, des témoignages de soignants, de psychiatres qui lui ont dit « Merci, merci d'avoir témoigné. Vous êtes sœur de vie et d'humanité avec tous les gens qui ont traversé ça après vous. » Et c'est ce lien avec le reste de l'humanité qu'elle a fabriqué toute sa vie.
Judith Chemla, quand vous venez sur France Inter chez Léa Salamé,
oui,
après avoir montré votre visage tuméfié sur Instagram,
oui,
expliquer ce qui vous est arrivé, des violences conjugales,
oui,
et puis ce livre, où on apprend aussi qu'avant ces violences, il y en a eu d'autres,
mm-hmm,
que vous avez, qu'il s'est répété des choses dans votre vie,
mm-hmm,
est-ce que vous vous êtes dit, je le fais, certes, pour moi, c'est dans mon parcours et ça va peut-être m'aider à aller mieux, mais je le fais aussi pour avertir les autres.
Mmh. Alors, quand il s'agit de se révéler comme ça, de montrer... Enfin, je veux dire, personne n'a envie de montrer ce qui est horrible ou ce qui est... Non, c'est quand on n'a plus le choix, c'est un acte vital de survie, de dire ce que je dis dans l'intimité, ce n'est pas entendu par la personne. Si son père lui avait dit, il y a besoin de faire des actes d'éclat, des actes, voilà, qui choquent, qui voilà. Il n'y a pas besoin si on est entendu. Donc, si vous voulez, quand la chape de plomb est trop, va vous anéantir et vous réduire à l'inertie, au silence, vous allez rester la botte collée à votre joue, le crâne par terre. Là, bah, on fait ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête et pour en effet dire voilà la réalité. On n'est pas du tout dans une culture de la protection des personnes en danger, on est une culture de la protection. De la présomption d'innocence de ceux qui auraient commis, ou peut-être, on n'est pas sûr, des violences. Mais l'enjeu n'est pas vraiment de se dire, ok, le plus important, c'est de protéger celui qui parle.
Et les femmes que j'ai en face de moi, les mères que j'ai en face de moi, vous avez chacune deux enfants, vous vous sentez en danger, vous vous sentez menacée, vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment prise en compte, que votre parole n'est pas suffisamment prise en compte.
Elle est toujours Judith, Céline. Relativisée, c'est toujours... c'est comme dans le film, enfin, on m'a demandé d'avoir un choix de recommandations culturelles. Là, il y a un film qui sort le 12 novembre qui s'appelle On vous croit.
Vous nous raconterez. Ouais.
Heureusement qu'il y a des fictions qui nous disent, qui emmènent, c'est aussi votre projet avec Cyril Dion, de créer des fictions pour... Il faut déjà imaginer un monde meilleur pour le construire. Mais voilà, dans ce film, à la fin, on dit on vous croit. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est toujours relativisé et l'intérêt de l'enfant est pensé dans un enfant doit avoir son papa et sa maman. Sauf que quand il y a un des parents qui se permet, qui s'est permis des violences, qui finalement est dans une pensée brutale et continue finalement de dire des choses violentes, mais la psyché d'un enfant, elle est fragile. Et ça... Personne n'est là pour... Enfin, déjà, même quand il y a des accusations d'inceste, probantes, des preuves, je veux dire, c'est là-dessus que Céline fait le documentaire. On ne protège pas ses enfants, on criminalise celles qui parlent. Ça paraît fou. La réalité dépasse toute fiction. Toute fiction. On met ça dans une fiction, on dit « Mais arrêtez, non mais vous délirez !» C'est pour ça qu'il faut des...
C'est pour ça que je vais faire un documentaire, moi.
Ouais. Eh bien, on en parle juste après Pomme. Elle chante « Des excuses ». Dans le grand atelier de Judith Chemla.
C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi. Et quand je pense à toi, j'ai le cœur au mauvais endroit. Moi je fais pas confiance au premier venu. Je t'ai donné ta chance, mais ta disparu.
Je t'ai donné ta chance, mais t'as disparu.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Judith Chemla, vous avez eu envie de la présence de Céline Saët, camarade de conservatoire, parce que vous avez vécu des choses communes, des douleurs communes. Vous avez eu aussi un parcours qui se ressemble un peu. Toutes les deux, vous faites du théâtre, du cinéma, et puis vous avez joué dans le premier film de fiction de Céline. Et vous m'avez dit, faudra aussi qu'on la fasse parler du documentaire.
Ah oui.
Qu'elle est en train de préparer. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Je ne sais rien. Dites-nous tout, Céline. Sur quoi travaillez-vous ?
Ça commence avec Judith, hein, surtout cette histoire.
À partir du livre ?
Non, elle connaît une femme qui s'appelle Sophie Abida, mais elle me parle de son histoire, l'histoire de cette mère qui a... ses enfants ont révélé de l'inceste et elle s'est vue incriminée de manipulatrice aliénante. La justice s'est retournée contre elle, ses enfants lui ont été arrachés. Je regarde son histoire sur son compte Instagram, Justice pour mes 4 enfants. Il y a des vidéos sur ce compte épouvantables, quoi. Enfin, de ses enfants qui lui sont arrachés au tribunal d'Orléans, des enfants en larmes, terrifiés, qui ne veulent pas aller voir leur père et qui sont forcés d'être arrachés à leur maman.
Remis à celui
qu'ils ont dénoncé. Ouais.
D'une manière concordante, avec des enregistrements dans un doudou que la maman, ne voulant même pas croire sa fille qui révélait un inceste, a caché. On entend des hurlements de l'enfant qui dit qu'elle a mal après que le père ait franchi la porte de la chambre alors qu'il n'y avait pas un bruit. Il ouvre la porte, on l'entend sur des constats d'huissier. La porte s'ouvre. Personne, l'enfant dort. Et tout d'un coup, l'enfant se met à gémir, à hurler en disant qu'il a mal et lui dit « c'est juste un petit massage ». Ok, il y a des preuves. Et on arrache les enfants à cette mère pour les remettre à celui que les enfants dénoncent de manière concordante. C'est un scandale. C'est scandaleux, c'est monstrueux, c'est malheureusement... Moi, je ne veux pas discréditer toute la justice parce qu'en effet, il y a des juges très intègres et que c'est très dangereux aujourd'hui de discréditer. Mais quand ça dysfonctionne, c'est notre devoir de le dire et que, en effet, les décisions qui sont rendues au nom du peuple français soient des décisions dans le droit, des décisions qui respectent le droit. Et qui ne mettent pas les enfants en danger. Là, ce sont des décisions criminelles.
Alors, ce qu'on peut dire à propos de la
Céline Saët.
Ouais, de la justice en matière en France et en matière de violences sexuelles. Ce qu'on peut dire en France, en ce qui concerne les violences sexuelles, on a un très très grand retard en Europe. On est régulièrement, l'État français est régulièrement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour violences secondaires. Nous, en France, on a 1% des plaintes pour violences sexuelles et incestes, qui aboutissent à une condamnation 1%.
Oui, même pas.
Et je veux dire, quand on pense au nombre de gens qui ne portent pas plainte, hein, d'enfants qui ne sont pas crus, je veux dire, au nombre de plaintes qui ne sont pas portées, 1%, c'est vraiment le règne de l'impunité en France pour les agresseurs sexuels. Malheureusement, un agresseur sexuel qui n'est pas puni est reconduit dans ses pratiques et un enfant agressé a 50% de chances de devenir un agresseur. D'accord ? En général, évidemment, pas les petites filles, mais les petits garçons. Dans l'affaire de Mazan, sur les 50 accusés au tribunal, il y en a, je ne sais pas combien, qui ont subi des violences sexuelles enfants. Ils sont tous dans un périmètre de 10 km², d'accord ? 50 agresseurs qui potentiellement vont sur le darknet éventuellement violer une femme sédatée, proposée par son mari. Vous vous rendez compte ? En fait, tout ce qu'on ne sait pas sur le nombre d'agresseurs qu'il y a en France... Bon bref, tout ça pour dire que en fait...
Oui, moi ce que je voudrais savoir, c'est comment vous allez tourner ça, comment vous allez filmer ça.
Ça fait un an que j'ai acheté... En fait, moi j'étais
désespérée. Vous avez décidé de faire un documentaire et pas une fiction.
J'étais désespérée, aux côtés de Judith. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire un gala ? J'ai passé quelques mois comme ça, à me taper la tête contre les murs, à être envahie par des images atroces, à essayer de me demander comment faire pour agir. Et puis je me suis dit, un jour, je peux acheter une caméra et documenter. Et j'ai acheté une caméra, et j'ai passé un an à filmer Sophie dans son combat socio-judiciaire. Jusqu'à, j'espère, sa victoire proche. J'espère de tout mon cœur que ce dossier va être résolu très rapidement. Celui-là et la circulaire que porte Sophie, puisque maintenant, comme elle n'a plus rien à perdre en justice et qu'elle a déjà tout perdu, elle a fondé un mouvement qui s'appelle le Mouvement des Mères en Révolte. Aujourd'hui, elle veut porter auprès du gouvernement une circulaire qui protégerait les enfants dans les 72 heures après la prise de parole, la parole des enfants. Au moins le temps d'une enquête.
Mais oui.
Par ailleurs, les enquêtes ne sont pas diligentées. En France, on ne sait pas enquêter sur ce crime qu'est l'inceste. Muriel Salmona, qui est une brillante spécialiste, dit, un enfant qui dit « Papa m'a fait pipi dans la bouche, mais je peux cracher sur le tapis », il n'y a personne qui se dit « Stop, les enquêteurs, les policiers, hein, je peux faire un prélèvement buccal, je peux trouver du sperme, il y a des traces, on arrête, on fait une perquisition, on regarde dans les disques durs de ces hommes. Voilà, ce qui s'est passé à Mazan, un policier zélé a fait une enquête sur un type qui mettait simplement un appareil photo sous les jupes des femmes.
Mmh. Oui.
Sans le zèle de ce policier qui va chercher dans les ordinateurs et les disques durs, on n'aurait pas arrêté ce criminel. Et on nous fait croire, hein, il y a un analyste, un expert qui a analysé Dominique Pellicot et qui dit c'est un homme monstrueux, exceptionnellement monstrueux. Or, c'est faux, c'est un homme normal et il y en a des tas d'autres comme lui. En fait, l'inceste, ce qui se cache au cœur de l'inceste, c'est que évidemment personne n'a envie de savoir qu'un ami, un type bien, sous tout rapport, un mec sympa qui fait des blagues, un père de famille, c'est ce que dit Dorothée Ducy, hein. Oui, il me fait un thé, il m'amène au cinéma et il me viole. C'est ça, un incesteur. C'est aussi quelqu'un qui a l'air d'un type normal et qui est, par ailleurs, un papa qui peut être soucieux que son fils ou sa fille n'attrape pas froid. Je vous dis une chose, là, ce que je suis en train de filmer, c'est, j'espère, la victoire de Sophie. Elle est en train de se libérer elle-même. Ni la justice, ni moi, n'avons rien pu faire pour elle. Elle est en train, par sa seule force et son seul courage, de libérer, j'espère, très rapidement, ces enfants de l'enfer qu'ils sont en train de vivre.
Savez, dans l'affaire, rien n'est sûr, rien n'est sûr. Là, c'est un acharnement.
Dans l'affaire que je documente, hein, un des voisins du père de famille, a posé une main courante parce qu'il entendait les cris de terreur des enfants depuis des mois. Cette plainte a été requalifiée en chamaillerie par le tribunal de Chartres. Je veux dire, on est sur une affaire qui est gravissime. Et j'espère de tout mon cœur que notre ministre de la Justice va se saisir de cette affaire emblématique pour révolutionner, je veux dire repenser, réformer profondément la protection de l'enfance qui est gravement malade.
Redites-nous le nom de cette femme.
Et
de
Sophie Abida.
Sophie Abida.
Ouais.
Et Sophie, le documentaire s'appellera comment ?
La lutte.
La lutte. Vous m'avez dit, Judith Chemla, quand on attendait tout à l'heure Céline, c'est une alliée, Céline, pour que les voix des artistes transforment le monde.
Oui.
C'est beau de croire à ce qu'on pourrait appeler une utopie,
oui,
que l'artiste transforme le monde.
Oui, mais je... Enfin, moi, petit à petit, hein, moi, j'étais une artiste aussi très, voilà, un petit peu décollée du sol, à faire des belles choses, de la poésie, à vouloir m'échapper du réel.
Oui.
C'est vrai, on a cette tendance à vouloir s'en échapper parce que, bah, on sent bien que, oulala, c'est bien sombre tout ça. Mais finalement, quand la vie vous atteint, quand on vit des choses difficiles ou juste qu'on est à l'écoute du monde, qu'on se laisse vraiment pénétrer par les événements, quand on a l'âme réceptive, on ne peut pas fermer les yeux.
Donc on fait...
Et notre
donc on art... témoigne de la société avec son art.
Oui, notre art, il est là pour quoi ? Pour faire quoi ? Il doit servir quoi ? Le divertissement pour que ça continue comme ça, pour nous continuer à nous endormir ? Ou alors nous dire, regardons la noirceur du monde ? Parce qu'on a quelque chose de beau à défendre.
Alors, quand
il y a
vous
des
jouez,
choses qui sont belles à défendre.
Quand vous jouez dans Hamlet...
Mais pour les défendre, il faut regarder la réalité.
Quand vous jouez dans Hamlet,
oui,
le rôle de Sarah Bernhardt qui joue Hamlet, parce qu'il y a plusieurs Hamlets sur scène, oui, hein, avec Serebrennikov, est-ce que vous avez aussi l'impression, en travaillant avec cet homme qui a été condamné, hein,
oui,
en Russie, que Poutine a combattu,
oui,
et aujourd'hui en exil à Berlin, est-ce que vous avez l'impression justement de répondre à ce que vous dites ?
Déjà, ça, Sarah Bernhardt, bon, Serebrennikov, c'est un artiste très libre.
Et engagé.
Oui, et puis ses acteurs aussi, enfin, ses acteurs sont vraiment des êtres humains que j'aime vraiment beaucoup et qui, en effet, ont subi une grande oppression de par leur non-asservissement. Juste le fait de ne pas accepter d'être asservi. C'est déjà juste ça que ceux qui veulent le pouvoir et qui ne veulent pas le lâcher et qui veulent vraiment vous écraser et écraser toute dissidence font. On ne supporte pas déjà qu'on ne prête pas allégeance à ces systèmes-là. En tout cas, la liberté de Kirill est grande. Et quand il met en scène, il écrit ce personnage de Sarah Bernhardt qui interprète Hamlet. Cette femme, en fait, c'est la première femme qui installe un tel rapport à elle-même, qui se, comme tu dis, Céline de Nikki, qui se crée elle-même, qui s'invente elle-même, qui invente sa destinée, qui prend le pouvoir sur elle-même et qui se crée un destin, quoi, qui devient une star mondiale. C'est la première star mondiale,
ouais.
C'est la première femme qui a autant, enfin, la première artiste qui a autant d'influence. Elle est sculptrice aussi, Sarah Bernhardt, elle est exceptionnelle.
La première qui a fait des autographes aussi.
Oui, voilà. Hein, elle s'émancipe de la condition d'oppression que son genre lui destine. Elle s'émancipe, elle prend ses rôles d'homme, elle prend cette parole, elle est extraordinaire pendant la guerre, hein. Elle transforme l'Odéon en hôpital militaire, elle est géniale, c'est une grande femme.
Vous dites souvent qu'on a besoin de figures, c'en est une.
Et puis elle y va dans le réel, elle soigne, elle fait des choses dans la réalité.
Ben on va vous
écouter. On n'est pas que des artistes qui flottent, et ouais. C'est pour ça que j'admire Céline, parce qu'avec tout ce qu'elle peut faire, hein, elle peut faire tous les films qu'elle veut, vu la beauté de son premier film, elle peut s'attaquer à tout ce qu'elle veut. Ben non, elle décide d'être atteinte par une simple histoire d'une femme dont personne ne se fiche, et d'essayer de transformer le monde. Mais c'est un grand acte. C'est un grand acte, et je l'admire et je la remercie de s'emparer de ça, avec sa petite caméra, si humblement, se battre contre des colosses qui vous écrasent. Je t'admire et je te remercie, et j'espère que Sophie, parce que Sophie est une grande flamme, que ça libérera beaucoup d'autres enfants placés, mis en danger par notre justice.
Vous nous donnerez des nouvelles, hein, Céline.
Avec joie.
Rappelez le titre de ce documentaire à venir.
La lutte.
La lutte. On écoute un extrait de Hamlet. Dans deux jours, à l'affiche du théâtre du Châtelet, c'est Judith qui chante.
Ah oui ?
Je joue Hamlet comme un fantôme amalgamé des atomes de la vie et des déchéances qui conduisent à la mort. Ce n'est pas un rôle d'homme que j'interprète, mais un cerveau d'homme. Un cerveau sans cesse en lutte avec la vérité des choses. C'est une âme qui veut s'échapper de son enlacis charnel.
Un extrait d'une répétition, c'est-à-dire que ça a complètement changé depuis.
Filou, hein, vous êtes filou, Vincent.
Ça a changé depuis.
Non, mais si vous voulez, là, je sais, on est en répète avec piano. Je suis pas forcément branchée sur le canal exact. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça me gêne un peu qu'on mette ça pour les spectateurs, parce que moi, je veux être branchée sur le canal exact. Et là, je fais un peu semblant. Vous voyez ce que je veux dire ?
On le trouve, ce canal exact ?
Bah oui.
Oui.
Ah, il le faut.
Est-ce qu'on le trouve avant la première ou pendant le spectacle ?
Bah ça dépend, mais on le trouve instant après instant quand on est avec les gens, avec toutes ces personnes, ces âmes, ces cœurs, ces têtes.
Que nous sommes nos spectateurs.
Mais oui, c'est avec vous, c'est cette communion, quoi. Et voilà. Et là, il faut parler. Il faut être bien branché.
Parce que là, vous êtes avec ce metteur en scène et avec des partenaires, français, russes, on parle dans plusieurs langues dans
allemand,
ce spectacle. Et vous
anglais,
avez aussi...
Américain.
Vous avez, en plus de votre texte, appris une partition musicale, parce que c'est du théâtre musical.
Oui.
Racontez-nous ça.
Ah bah, moi, quand on m'a dit, il y a un orchestre, j'ai dit à Kirill, mais je veux bien chanter, parce que je suis chanteuse. Dit, t'inquiète pas, c'est prévu et tout. Moi, je savais pas comment il m'avait trouvé. Je me disais, mais c'est Olivier Py qui lui a parlé de moi. Comment il me connaît d'abord, d'où il me connaît. Puis j'ai mis du temps à demander, mais comment il me connaît ? Pourquoi vous m'avez demandé de venir ?
Vous avez une réponse ?
Ben oui, en fait, ils m'ont cherché. Ils ont cherché une actrice qui jouait des grands textes, et voilà. Et puis après, il a vu que j'avais chanté aussi la Traviata, donc il a dit, oh, c'est bon. Apparemment, il aurait dit, c'est mon rêve. Bah oui, bah, moi aussi, c'est mon rêve. Voilà, moi aussi, c'est mon rêve. Moi aussi, c'est mon rêve. Donc, et puis là, il y a une partition qui a été écrite aussi à partir d'une improvisation que j'ai faite sur la musique. Et je suis ravie, je suis très contente. Je suis très, très heureuse, très heureuse. Ça fait tellement de bien, un souffle de liberté. Bah, lui, de toute façon, il écrit à partir aussi de... Voilà, de qui il est. C'est aussi politique, son écriture. C'est poétique, politique.
Judith Chemla, j'ai une question très intime à vous poser. Vous me répondez ou vous ne me répondez pas. Je voudrais savoir si vous êtes retombée amoureuse.
Ah. Mais je pensais pas, si vous voulez, quand j'ai écrit, j'étais tellement heureuse en écrivant mon livre. C'est pas juste un truc où je dis « Ah, j'ai vécu ça, c'était dur ». Non, non, j'ai écrit avec un souffle
Ouais, et le livre est aussi. Parcouru. Ouais,
c'est ça aussi, c'est le livre, redonner vie.
Le livre soulève, le cœur, soulève
mots,
la
les
tête,
phrases,
les cheveux, ouais, les
souffle,
poils.
Ouais. Le souffle de reprendre récit, de reprendre l'écriture de sa propre vie.
Notre silence nous a laissé seuls.
Oui,
et pour moi, c'est mon royaume. Un homme est venu avec ce livre vous demander une dédicace et c'était lui votre nouvel amoureux.
Ah, sûrement pas, il savait pas. J'étais en train d'écrire et j'étais dans la pleine possession de mes moyens. Et puis, j'avais pas besoin d'homme du tout. C'est pour ça que j'ai rencontré cet homme merveilleux. Mmh. Mais merveilleux. Mais vraiment, mais tellement beau. Qui m'apporte un amour, mais un vrai amour. Qui aime ma liberté, qui aime profondément ma liberté. Qui me respecte. Mais comme ce respect, c'est un joyau. Et je savais pas, moi, que c'était aussi important que ça, le respect. Bah si, s'il vous plaît. C'était dans l'amour, s'il n'y a pas de respect, c'est pas de l'amour. Et là, c'est... Je n'ai jamais vécu une telle paix, mais une paix. Et si vous voyez, mon âme, elle est toute légère. Je me sens... Non, mais franchement...
Céline, ça vous fait plaisir ?
C'est un grand cadeau. On n'est pas asservi. J'ai pas... Et je ne suis pas dans le manque avec lui. C'est vrai, il ne me manque pas. Je sais qu'il est là. Je sais qu'on est, ensemble. On se grandit l'un l'autre. Mais on tient debout l'un et l'autre tout seul. Et ça c'est le préalable fondamental pour vivre une belle chose. On tient chacun dans nos bottes et on se porte et on est heureux de voir l'autre grandir et on n'a pas envie de l'asservir, on n'a pas envie de le réduire, non. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une très belle relation d'amour. Et je me disais, d'ailleurs, sur mon vélo, on se dit toujours des féministes,
oui, vous êtes venue,
pour les hommes. Bah, j'adore les mecs, et c'est pour ça que... Moi, j'adore les mecs, c'est pour ça que je suis allée avec des pauvres cons aussi, pardon, excusez-moi, mais... Je les adore, en fait. Et je savais juste pas qu'il y en avait qui étaient si mal foutus, si mal intentionnés. Mais je les adore, les mecs. Et je l'adore, celui avec qui je suis. Mais voilà. Et bah, lui, il est merveilleux.
Alors,
et
vous allez nous interpréter.
Et bah, voilà.
Vous allez nous interpréter a cappella. Je suis une femme amoureuse.
Ah, moi, je connais pas, moi.
I am a woman in love. Barbara Streisand. Non, ah, oui. On va écouter dans le grand atelier de Judith Chemla avec Céline Salette. Vous avez reconnu son rire, là. Wet leg, mange tout. Judith Chemla, vous avez envie donc de nous conseiller un film. J'ai vu qu'il sortait le 12 novembre en salle et qu'il s'intitulait « On vous croit » de Charlotte de Villers et Arnaud Dufay.
Tout à fait. Et c'est un film très percutant. On est vraiment comme dans un thriller, on est avec le personnage principal.
Féminin.
et au féminin, et ça raconte vraiment ce qu'on vit. C'est très, très, très réaliste. Voilà, c'est très intéressant de voir l'enfer, en effet, qu'on peut vivre quand on veut protéger ses enfants, une chose toute simple qui devrait être toute naturelle.
Donc c'est une femme qui est en justice.
Si, en effet, le titre était réel et qu'on vous croyait. C'est un peu, si c'était, voilà, malgré, même si on nous croyait, regardez le parcours du combattant que c'est.
Parce que le film se fixe sur quoi ?
Bah, sur une mère qui essaye de protéger son fils et sa fille d'un père incestueux. Et elle a réussi à les protéger, mais le père réclame la garde. Et voilà, et on l'accuse d'être une manipulatrice. Et on voit bien que les gens en charge de la protection de l'enfance, l'avocat des enfants, tout ce qui l'intéresse, c'est une grille de lecture qu'on a tous en France. C'est bah, un enfant a besoin de son papa et de sa maman. Bah, si le père est violent, il n'a sûrement pas besoin d'être confronté à ce père violent. Et on espère que de créer des œuvres de fiction nous permettront de fixer nos imaginaires sur ces objectifs-là. C'est le but.
On vous croit, Charlotte de Villers et Arnaud Dufay, ça sort le 12 novembre. Céline Salette, ça n'est pas un conseil directement culturel, c'est pas un bouquin, c'est pas une expo. Votre conseil, c'est d'aller voir l'Instagram de qui ?
D'Adèle Haenel, parce qu'au fond, c'est presque un conseil culturel. Ce qu'elle, cette grande artiste, cette femme de culture, décide de nous faire voir, c'est ça. C'est la flottille qui part tenter d'apporter une aide humanitaire à Gaza. Le partage de cette sidération, je pense, pour nous, êtres humains, de regarder ce qui est en cours sans que nos gouvernements interviennent à la hauteur, malgré le soulèvement de toutes les populations européennes et mondiales, pour dire nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas supporter de regarder un peuple entier se faire massacrer, des enfants déchiquetés, nous ne pouvons pas supporter ça. C'est impossible, en fait. Voilà.
Merci de votre présence à toutes les deux, de votre, comment on dit, sororité. Je vous ai vu tout à l'heure vous tenir par la main. C'était très beau. Vous êtes au Châtelet à partir de, dans deux jours, à partir de mardi. Judith Chemla, vous êtes avec vos camarades dans Hamlet Fantôme, Serebrennikov, d'après le grand Shakespeare. C'est jusqu'au 19 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris. Et puis on lit ou on relit. Notre silence nous a laissés seuls chez Robert Laffont. Stéphane Combe a réalisé cette émission préparée avec Marion Guilbeault, Valentine Chedebois a programmé la musique et Thomas Allard était à la technique. Samedi à 17h, la balade de Vincent de Dienne. Il sort un disque. Et dimanche, sur Inter, ce sera à la même heure, le grand atelier de la pianiste Shani Di Luca.